Non. Ah bon? Non, c'est une 10h45, je pense. De toute façon, là, on va passer les décalés. Ouais. On va reprendre parce que le temps qu'elles puissent toutes les trois présenter, je vous demande de vous asseoir, s'il vous plaît. Ah ouais, non, mais... Je fais comme au théâtre, je vais faire les trois. Donc c'est toi, Angélique, qui commence. Stéphanie. Bon, je donne la parole pour commencer ces échanges à Angélique Reves, qui travaille à Audacia et qui va nous expliquer l'hébergement, la prise en charge, en fait l'hébergement d'urgence et puis après le suivi des femmes victimes de violences.
Donc, bonjour. Je tiens tout d'abord à remercier l'Espace Mendès France et la démarche en fait engagée avec les universitaires et le réseau Violence Conjugale de Poitiers. Je ne vais pas présenter le réseau Violence Conjugale de Poitiers car Sandra en parlera tout à l'heure. 20 minutes, c'est court, donc il faut que je sélectionne ce que j'ai envie de vous transmettre. Et il y a quand même beaucoup d'informations. Effectivement, je suis éducatrice spécialisée, donc je travaille quotidiennement avec des victimes de violences. J'ai une expérience au niveau de l'accueil d'urgence car j'ai travaillé sur le dispositif d'accueil et d'accompagnement des victimes de violences de la Croix-Rouge. Donc j'ai accompagné des victimes adultes et enfants. J'ai questionné et traité la question justement de l'accueil des enfants dans ce contexte et j'ai fait un mémoire dans le cadre de ma formation d'éducatrice. Donc c'est vrai que c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur et les enfants sont les grands oubliés des violences conjugales. Ça questionne souvent les professionnels sur le territoire et il y a des réflexions en cours, mais trop peu de moyens en tout cas et des difficultés en tout cas exprimées par les professionnels quant à l'accueil des enfants et la considération des violences et puis les enjeux autour de l'enfant dans le cadre de séparation, autour de la parentalité. Il y a des enfants qui sont instrumentalisés et je ne vais pas m'attarder. Donc éducatrice de formation sur le terrain, parallèlement membre du réseau violence conjugale de Poitiers. Il y a plusieurs constats qui ont été faits sur le réseau violence conjugale de Poitiers, mais effectivement sur les autres réseaux aussi, car il y a 5 réseaux sur le département. Des constats quant à au besoin d'un état des lieux, d'un premier état des lieux, en tout cas une première étape, un état des lieux départemental, pour permettre d'avoir des éléments de compréhension, des données quantitatives mais aussi qualitatives. Donc ça fait 5 ans que je me spécialise sur la question des violences conjugales. J'ai voulu aboutir cette spécialisation par un diplôme universitaire des violences faites aux femmes qui est organisé à Paris 8. Et dans le cadre de cette formation, un stage était proposé. Donc il était tout naturel, étant membre du réseau et sur le terrain depuis des années, de solliciter Madame Lamarche, déléguée départementale aux droits et à l'égalité sur le territoire, pour proposer cette première mission d'état des lieux. Donc dans le cadre de cette démarche, bien entendu, l'objectif est de questionner les 5 réseaux départementaux. Il y a un niveau d'expertise quand même très important sur le territoire et il me semble essentiel de porter la voix des acteurs de terrain. Dans ce cadre aussi, je rencontre des victimes de violences. Le délai de stage étant trop court, je ne pouvais pas rencontrer les auteurs, mais il est important de questionner la violence conjugale de manière globale et d'essayer de réfléchir à des réponses qui prennent en considération la victime adulte, l'enfant et la prise en charge des auteurs. Donc Sandra pourra aborder justement la prise en charge de l'auteur ensuite. Donc je rencontre des victimes qui sollicitent l'hébergement. C'est des professionnels qui me mettent en lien, mais c'est aussi des victimes que j'accompagne sur le terrain. Vous avez pu trouver un petit flyer sur vos... chaise, parce que l'idée, en fait, c'est que on sait que les violences conjugales touchent tous les milieux sociaux et que finalement, il y a de nombreuses personnes qui ne vont pas solliciter l'aide sociale par méconnaissance des dispositifs, mais parce qu'aussi, il y a des personnes qui ont un réseau suffisamment étayé et qui arrivent à trouver des solutions. Donc l'idée, est, par cette enquête en ligne, est justement de toucher le maximum de personnes pour avoir suffisamment de données et d'analyser justement ces ressentis et la position des victimes, leurs constats dans le cadre après de l'état des lieux et du travail qu'on pourra engager auprès des services de l'État. Donc, je ne vais pas m'attarder sur cette démarche parce que je pourrais en parler plus longuement. Je souhaite en fait vous transmettre quelques informations sur ma pratique de terrain et ce qui se passe concrètement sur le terrain. Donc, déjà, comme je pouvais le dire, toutes les solutions ne passent pas en fait par l'hébergement. Je pouvais le dire, il y a des femmes en fait aussi qui, dans les premières enquêtes, les femmes expriment la méconnaissance des aides existantes sur le territoire. Donc souvent, c'est le médecin généraliste qui est le premier interlocuteur. Et c'est vrai qu'il est essentiel de questionner, en tout cas de penser les violences et d'aider à nommer l'indicible. Et le questionnement, en tout cas le repérage systématique, est essentiel. La question de la formation aussi est essentielle. Les travailleurs sociaux, on intervient régulièrement à l'IRTS sur différentes filières pour former à la question des violences, au repérage et aux pratiques après d'accompagnement. Donc sur le territoire, je pense que c'est important de citer quand même le Centre d'information des droits des femmes et des familles, qui est quand même un interlocuteur, le planning familial. La Croix-Rouge, qui gère en fait le dispositif d'accueil, d'accompagnement d'urgence des victimes de violences. La Croix-Rouge, donc au sein de cet accueil de jour, il y a de la mise à l'abri, mais il y a aussi tout un travail de prévention, car on sait que la réponse dans l'urgence, elle est rarement pertinente. Les violences conjugales, c'est un continuum, on a pu aborder justement le caractère systémique, l'emprise, le psychotrauma. Je vous renvoie également vers les travaux de Muriel Salmona. Je pense que c'est tout à fait accessible sur son site Mémoire traumatique. Et ça permet à tout citoyen, mais toute personne confrontée à une victime de violence, de trouver des clés, en tout cas de compréhension, sur ce qu'on nomme souvent l'ambivalence, le fait des allers-retours successifs, le fait du retrait de dépôt de plainte. Le fait aussi que souvent les femmes vont parler des violences et finalement... elles seront, dans leur transmission d'informations, ça sera dénué d'émotion. C'est que finalement, en fait, la dissociation intervient aussi à ce moment de la révélation des faits. Et il est important, en fait, que ces femmes arrivent à dépasser ce récit traumatique vers un récit autobiographique. Donc là, il y a tout un lien aussi avec le travail social, quand il y a de l'accompagnement, mais pas que, parce qu'on n'est pas thérapeute en tant qu'éducateur, mais quand on accompagne une femme victime de violence, on la reçoit régulièrement, quotidiennement, on passe des heures et des heures à discuter avec elle, à l'aider à construire sa pensée, à l'aider à intellectualiser les phénomènes à l'œuvre dans le cadre de violences conjugales. Je tiens aussi à parler du centre de psychotraumatologie, dont je regarde Mélanie Voyer, mais parce que c'est une ressource indispensable et j'accompagne des femmes qui commencent à aller en consultation et on sent qu'il y a une autre approche par le MDR, que ces femmes ressentent au bout de quelques séances une forme d'apaisement, c'est un peu fort, mais en tout cas, il y a moins de cauchemars, il y a moins de troubles du sommeil, il y a plus de facilité à nommer et moins de culpabilité. Donc, il me semble aussi important de préciser qu'une personne victime de violence n'est pas sans domicile, initialement, à part dans des cas de précarité, mais une personne en danger chez elle. L'éviction du conjoint est trop peu utilisée, comme ça est pu... On en reparlera tout à l'heure, parce qu'il y a du travail à l'œuvre actuellement. Il est important... Alors, l'éviction du conjoint est une réponse, mais il y a des femmes qui souhaitent quitter le domicile. Et ça, il faut l'entendre aussi, parce que le domicile est empreint de souvenirs traumatiques. Et ce n'est pas un lieu sécurisant. Donc, il faut aussi, dans ce cas-là, dans un accueil de prévention, leur permettre de travailler un projet de relogement. On peut travailler avec des bailleurs sociaux qui sont sensibilisés à la question. Là, on peut aussi proposer une phase d'hébergement. Donc, en tout cas, dans le cadre de l'accompagnement social auprès des victimes, le partenariat est essentiel, car on touche différents niveaux. Et je pense, j'ai une situation concrète, parce que voilà, là, j'aurais dû rappeler la gendarmerie à 10h. Je suis en train de gérer une situation d'urgence, et je pense que je peux peut-être l'exposer. c'est une femme, en fait, qui est passée par différents dispositifs. J'ai déjà abordé la situation de cette femme au Grenelle. Par différents dispositifs, le partenariat a plutôt fonctionné, mais c'est vrai qu'elle a dû passer par... C'est une femme qui habite en milieu rural, une femme qui a vécu 35 ans de violence, qui était en arrêt maladie depuis 2 ans. C'est son médecin conseil qui l'a convoquée et qui l'a questionnée. Et c'était la première fois que quelqu'un venait parler des violences. Elle a eu du mal à dévoiler, parce qu'en fait, ce médecin était un homme. Et ce médecin a eu l'intelligence de l'orienter vers une femme, vers une assistante sociale, qui en fait a permis à cette personne de penser la violence, de ne pas culpabiliser. Elle a avancé, cette assistante sociale a avancé petit à petit, sans juger. Elle a pris le temps, parce que finalement, du mois d'octobre au mois de décembre, il y a eu plusieurs phases avant que cette femme souhaite quitter le domicile. Ensuite, elle a été entendue à la gendarmerie, elle n'a pas souhaité déposer plainte par peur des représailles, parce qu'elle était encore au domicile. Ensuite, elle a été... Donc, il y a eu tout un travail avec la Croix-Rouge, le service intégré d'accueil et d'orientation. Elle a été orientée sur une des places sécurisées sur Poitiers. Il y en a 2, c'est trop peu. Donc, cette femme, ensuite, a trouvé un lieu ressource. Elle le dit, qu'elle avait besoin d'une présence 24 heures sur 24. Elle est souvent la nuit, elle allait se confier à la veilleuse de nuit. Elle était en lien directement avec la psychologue. Il y a tout un étayage qui a été proposé. Une fois la situation de... Parce que monsieur l'a harcelée, forcément, 35 ans de violence, il voulait qu'elle revienne au domicile. Pour lui, de toute façon, elle était incapable d'exister en dehors du domicile. Donc, cette femme, petit à petit, voilà, elle n'est pas retournée au domicile. Et je trouve que, voilà, il faut souvent 6 à 7 allers-retours. Et elle, il aura fallu 7. Ouais. Et cette femme, en tout cas, a trouvé un espace sécur. Elle le dit par rapport au psychotrauma, qu'elle avait l'impression, en fait, d'avoir un bloc dans la tête. Elle le dit encore, que quand on parle de sa situation, elle a l'impression d'être étrangère à elle-même. Et je trouve qu'en fait, elle parle très bien de l'impact du psychotrauma. Donc, cette femme est restée dans ce lieu sécurisé de décembre à avril. Or, c'était un lieu sécurisé, c'était transitoire. Il fallait trouver une solution. C'est une femme qui a un statut social, mais qui n'a pas accès aux ressources. Elle a l'indemnité journalière par rapport à son arrêt. Donc, c'est difficile de travailler un relogement dans ces conditions, sachant qu'elle est fragilisée. Et la seule solution, en tout cas, je dirais la moins pire, entre guillemets, c'était une orientation en centre d'hébergement et de réinsertion sociale. On a travaillé avec le service intégré d'accueil d'orientation, avec la volonté de l'association dans laquelle je travaille, pour respecter son choix de ne pas être sur le collectif, car on accueille un public mix de 18 à plus de 60 ans avec des problématiques très très variées. Donc elle est hébergée dans un petit appartement à proximité du centre d'hébergement. Donc il y a tout un accompagnement de proposé, bien entendu. Il y a monsieur essaie de maintenir son impunité à distance par différentes stratégies qui sont forcément très, très insidieuses et intelligemment pensées, parce qu'on ne peut pas, en fait, madame ne peut pas déposer de plainte par rapport à ce qui met en place au jour d'aujourd'hui. Elle a fait un dépôt de plainte au mois d'avril. Donc de décembre à avril, elle ne pouvait pas faire ce dépôt de plainte. Elle n'a pas été reçue par l'UMJ. Donc c'est vrai que ça, l'idée aussi, c'est d'aller au rythme de la personne et de pouvoir... ensuite, recueillir des témoignages. Et là, c'est un peu ce que j'ai pu réaliser tout au long des mois d'accompagnement, c'est de recueillir la parole des professionnels qui sont intervenus pour étayer son dossier au niveau de la justice. Donc, la procédure de divorce est enclenchée. Madame, normalement, doit se présenter le 9 décembre. Et là, ce week-end, elle devait aller voir son père pour son anniversaire. Et donc, elle a été appelée dans un centre commercial, elle a été avec sa fille et sa petite-fille. Il faut dire que 35 ans de violence conjugale, elle a frôlé la mort à plusieurs reprises. Et que monsieur, moi, il y a un réel danger. Elle a été contactée parce qu'en fait, monsieur est en train de perdre pied, il s'est présenté chez la centre sociale. Il a proféré des menaces de mort à l'encontre de la famille de madame et il voulait se rendre au domicile. Donc la gendarmerie, la centre sociale a interpellé la gendarmerie. Il a été en garde à vue du vendredi 16h au samedi midi. Cette femme est terrorisée parce qu'elle pensait qu'avec la procédure et tout l'étayage qui était mis en place, elle allait se sentir en sécurité. Monsieur est sorti de garde à vue. De mon côté, j'essaie d'interpeller tout le monde. Donc j'essaie de mettre en place une ordonnance de protection. Ça fait 72 heures que je mène un véritable combat parce que madame, en fait, la procédure est sur 79 et qu'on est sur le 86. Et que malgré l'arsenal législatif en place, il est difficile de mettre en place une ordonnance de protection, d'avoir une attribution de TGD en urgence. C'est la famille de madame qui était touchée, c'est une stratégie de l'auteur, mais elle ne peut pas faire un dépôt de plainte. Il faudrait que sa famille vienne déposer plainte. Or, ses parents ont 85 ans. C'est pour vous expliquer un peu notre quotidien, finalement, ce qu'on vit en tant qu'accompagnateur social. Et je trouve que c'est important parce qu'on est là pour soutenir et finalement, on est facilement aussi démunis. Parce que hier, j'étais au commissariat parce que j'avais besoin de soutien d'une collègue, intervenante sociale, qui m'a permis de penser. Parce que c'est difficile de penser la violence quand on est en relation duel, même si on travaille en équipe. Il faut des soutiens extérieurs. Donc j'ai appelé aussi une avocate. On essaie vraiment de faire fonctionner le réseau. Et on était démunis, finalement, par rapport à la gestion de cette situation. Et la personne qui était à côté de moi était dissociée. Elle n'arrivait plus à penser et elle me réexpliquait ses symptômes. Elle me dit, mais là, je ne sais plus. Elle n'arrivait plus à poser de choix. Elle me dit, je veux protéger ma famille. Je veux être entendue. Je veux qu'on me protège. Mais elle ne pouvait plus penser. Donc voilà, c'était, je pense, un exemple concret. Donc je vais je sais qu'il y a des étudiants en travail social aujourd'hui et je trouve que c'est important en tout cas juste de synthétiser, de vous transmettre quelques données. Donc une personne en situation de violence conjugale vit une sensation de danger permanent, l'isolement, le retrait social, le sentiment de ne pas être comprise, l'impression de survivre, une situation sans issue, la honte, la perte de confiance et d'estime de soi, des problèmes de sommeil, des douleurs chroniques. Il peut avoir des conduites à risque et des addictions afin de s'anesthésier psychiquement. En centre d'hébergement et de réinsertion sociale, on accueille des femmes victimes de violences. Des fois, la porte d'entrée, c'est violence conjugale. Depuis quelques mois, je questionne en fait les femmes du CHRS parce qu'il y a un lien de confiance, parce que je suis là quotidiennement. Et finalement, 100% des femmes accueillies en centre d'hébergement ont vécu des violences. Donc ça nécessite un accompagnement spécifique. Je voulais introduire avec quelques chiffres du Grenelle, donc je refais un petit... Le Grenelle a eu lieu le 18 octobre 2019, donc quelques chiffres. De janvier à septembre 2019, il y a eu 3791 nuitées hôtelières sur le département. Ça correspond à 118 ménages hébergés en urgence, dont 58 enfants. Il y a eu 50 demandes d'hébergement pour motif violence conjugale. Et il y a 28 places dédiées sur le département. Donc, je pense que ça se passe de commentaires. Donc, je synthétise en expliquant qu'une personne en situation de violence conjugale vit différentes problématiques. Majoritairement, la victime banalise la violence, ne peut pas la nommer car habituelle. Il faut vraiment aider à penser l'indicible. Et concrètement, souvent les femmes nous disent, mais j'ai pas l'impression qu'on parle de moi, mais c'est pas de la violence sexuelle, je fais mon devoir conjugal. Lorsque j'étais sur l'accueil de jour avec ma collègue en fait Sarah Lacrissi, on a questionné justement les violences sexuelles et on a eu 100% de réponses positives sur des viols conjugaux. Donc la victime a besoin de comprendre les mécanismes de violence, d'être accompagnée afin de devenir sujet pensant et agissant, d'être orientée vers des partenaires spécifiques et spécialisés. Le parcours d'une femme victime de violence va être jalonné d'interlocuteurs. Là, sur les premières enquêtes, ce qui ressort, c'est la nécessité d'un interlocuteur unique. Alors, c'est vrai que quand elles sont accompagnées en hébergement ou sur du logement ou par le commissariat, par une intervenante sociale, on peut faire le lien et essayer de coordonner le parcours. Et c'est ce qui est exprimé, c'est en fait la difficulté de toujours se raconter sur différents interlocuteurs qui vont avoir un prisme différent. Et finalement, se raconter, c'est aussi des fois douter de la véracité des propos qu'on peut tenir. Et donc, voilà, il est important, cet interlocuteur unique. On n'a pas de lieu unique encore sur le territoire. J'espère qu'un jour, on pourra réfléchir à ce projet et qu'on trouvera les financements. Donc, dans le cadre de l'accompagnement, il est nécessaire d'inverser les stratégies de l'auteur de violences conjugales. L'auteur a isolé sa victime. On l'entoure, on la soutient. On lui propose une vie sociale riche. Sur l'hébergement, on propose différentes actions. Donc, je pense à des actions d'art-thérapie avec Valérie Favre qui est là, sur l'association Concordance. On propose des ateliers autour de l'estime de soi. L'intervenante est également là, Pascaline Bainvel. On propose aussi des interventions collectives, mais sur le développement du pouvoir d'agir, parce que les femmes qu'on accueille n'ont pas toutes le même parcours, ne sont pas toutes dans le même cheminement face aux violences. Et finalement, de rencontrer une femme qui est sortie des violences depuis des années, ça permet d'être dans une autre forme de réciprocité que dans la relation avec le professionnel. Même si on essaie de réduire la symétrie, on sait très bien que la relation est différente. Donc il y a des groupes de soutien qui se créent. Il y a même des fois des gardes d'enfants, vraiment des solidarités. Donc l'auteur l'a rabaissé, humilié, dénigré. On la valorise, on légitime ses choix. On lui permet de reprendre du pouvoir sur elle-même et sur son environnement. L'auteur a fait régner la terreur. On lui offre la sécurité, une relation empreinte d'empathie, un environnement sécurisant. Alors, il y a du travail encore à faire, parce que là, l'exemple que je vous ai donné, cette femme est en hébergement extérieur dans un appartement. On ne peut pas assurer sa sécurité. C'est pour ça qu'il est important qu'on mette en place le TGD et l'ordonnance de protection au plus vite. Donc, il y a plusieurs principes dans l'intervention sociale. Donc nous devons proposer des possibles et surtout ne jamais remettre en question le vécu de violence conjugale, même si ça peut nous paraître invraisemblable. Il faut vraiment être vigilant sur la communication non verbale qu'on va pouvoir transmettre à la victime. Alors, les violences, donc là j'ai déjà pu en parler, du récit traumatique est passé à un récit autobiographique par une prise en charge thérapeutique, mais aussi des ateliers d'art-thérapie et simplement la relation de confiance et éducative. Donc le travail individuel est essentiel, mais l'approche collective tout autant. Et enfin, accompagner une personne victime de violence, c'est aussi accompagner toute une série de démarches spécifiques. Un dépôt de plainte, un rendez-vous chez un avocat, le constat des violences subies, collecter des témoignages, aider à la constitution du dossier administratif, les recueils maintien de la personne et de ses éventuels enfants dans le domicile conjugal lorsque c'est possible. Des démarches spécifiques. Donc notre travail consiste à aider à organiser ces démarches. Il est souvent aussi préférable d'accompagner physiquement la personne. Nous n'imposons pas de dépôt de plainte. Et il est essentiel en fait de travailler. Je trouve que la place des intervenants sociaux en gendarmerie et commissariat est essentielle parce qu'en fait ça permet de nommer les violences, de construire sa pensée, justement d'essayer de travailler ce récit traumatique pour après pouvoir construire et travailler justement le dépôt de plainte éventuel. Et je vais laisser la parole à Amélie Bertin.
Bonjour. Déjà, peut-être en introduction, remercier Loïse pour nous avoir sollicité et puis le travail qui s'amorce avec les chercheurs sur l'idée de travailler ensemble et de regrouper les compétences de la recherche et les compétences du terrain. Et puis peut-être, moi je vais introduire mon intervention qui va être assez courte sur le fait de donner de la visibilité à l'invisibilité ou le peu visible. Alors les violences conjugales, elles se parlent de plus en plus. Mais je suis heureuse de participer à cette conférence pour au moins donner la parole à ces victimes par notre prisme, en l'occurrence aujourd'hui, mais ça me paraissait important, donc merci beaucoup. Je ne vais pas faire un cours magistral sur la notion de violence, etc., mais je vais simplement vous expliquer un peu ce qu'est le dispositif d'intervenant social en commissariat et gendarmerie. Parce que l'idée qu'un travailleur social intègre l'institution police ou gendarmerie, ça ne va pas de soi, comme ça, de putain blanc. Et pourtant, je pense que la complémentarité des différentes missions est extrêmement importante et très riche d'un point de vue professionnel, mais aussi pour les personnes évidemment accueillies, ce qui est quand même, nous ne l'oublions pas, le principal. L'idée de ce dispositif qui existe à Poitiers, en fait, il existe depuis longtemps sur le territoire national de manière un peu expérimentale. Ça fait une trentaine d'années que les premiers intervenants sociaux en commissariat ont vu le jour. Et puis, petit à petit, au vu de la constructivité, de l'effectivité de ces postes, eh bien, ça s'est développé via une association qui s'appelle l'ANISCG. Et à Poitiers, j'ai envie de dire que ça fait à peu près 10 ans qu'il y a donc un travailleur social à temps plein, donc on est 2 sur le commissariat de police, 2 à mi-temps, 2 en secteur gendarmerie, donc ça fait un autre temps plein, et 1 mi-temps sur le commissariat de Châtellerault. Donc au jour d'aujourd'hui, il y a 5 mi-temps en route. L'idée de ce dispositif, c'était dans un premier temps peut-être d'offrir aux personnes accueillies un espace un peu plus humanisant, de pouvoir être accueilli, de prendre le temps. Et peut-être, ce qui me paraît hyper important, on parle de dire les violences. D'offrir un espace pour dire les violences, c'est pas rien. Et pour que cet espace puisse être effectif, il faut des professionnels en face qui soient en capacité, à mon sens, à notre sens, de pouvoir écouter ces violences sans jugement, afin de pouvoir libérer la parole. Et ça, c'est un axe très important. Alors, accueillir ces personnes, ça ne se fait pas comme ça. Il y a plusieurs portes d'entrée. Nous, on a un bureau au sein du commissariat. On est au même étage que la brigade de protection des familles et la brigade des mineurs, ce qui permet quand même de pouvoir communiquer. J'ai parlé de l'aspect de la confidentialité. Évidemment, ce qui se dit dans notre bureau reste dans notre bureau. Néanmoins, dans l'intérêt des personnes et en accord avec la personne, il nous arrive de communiquer avec les policiers dans le cadre d'une procédure pour pouvoir justement mettre en place des choses cohérentes et qui ne vont pas rajouter, enfin on va tenter en tout cas de ne pas rajouter de la violence à la violence. Nous, en tant que travailleurs sociaux, on a accès aux mains courantes dont on parlait tout à l'heure, et je rejoins ce qui a pu être dit par rapport aux mains courantes. Les personnes qui viennent déposer des propos et qui rentrent dans le commissariat et qui ont envie de déposer une main courante sans forcément qu'il y ait une judiciarisation. Après, c'est une première étape dans le processus et c'est important de respecter ça. Nous, en tant que travailleurs sociaux, on a accès aux mains courantes, donc on a la lecture le matin, on lit ce qui s'est passé la veille, donc les mains courantes, les interventions de la veille, puis ce que les personnes ont pu déposer, donc les mains courantes, déclaration de mains courantes, on appelle ça. En fonction de ce qu'on peut lire, on se met à disposition. C'est-à-dire que, je ne sais pas, une personne qui vient juste livrer, qu'elle ne se sent pas très en sécurité chez elle, sans pour autant nommer des violences très spécifiques, hein, en tout cas qui puisse nommer une forme d'anxiété dans son quotidien, dans son foyer et notamment dans sa conjugalité, et ben on va la contacter, on va se présenter et lui proposer une rencontre ou un échange téléphonique. Je dis bien, on va lui proposer. Donc on travaille vraiment sous le principe de la libre adhésion. Si la personne ne veut pas, n'en est pas là dans ce processus, eh bien, on va simplement lui laisser nos coordonnées, pardon, et puis peut-être qu'elle rappellera, puis on se rend compte que généralement, cette première mise à disposition, des fois des bouches, des mois, des années après, sur un appel. Vous m'aviez appelé il y a un an et demi, et maintenant là j'ai besoin et j'aimerais bien qu'on se rencontre. On peut rencontrer ces personnes par le biais des mains courantes, mais il y a d'autres filtres. On travaille plutôt bien avec l'accueil du commissariat, qui, pour une personne qui se présente et qui ne sait pas trop quoi faire, qui est un peu perdue dans sa situation, avant de l'orienter vers un policier, elle va nous contacter et on va essayer de rencontrer la personne en fonction de nos disponibilités. Donc ça fait partie d'un des prismes. On peut être aussi en lien avec le service des plaintes, qui peuvent se retrouver avec une personne dans son bureau qui est en train d'évoquer sa situation et qui va dire « Non, mais en fait, moi, ça va trop vite, etc. » Donc le plaintier ou la plaintière nous contacte en disant « Je pense qu'il y a peut-être besoin de faire le point. » Puis on va prendre le temps de les écouter, de voir avec elles. Et puis il y a les partenaires sociaux. Donc je vais en parler plus tard. Et puis, les personnes elles-mêmes. Du coup, le dispositif, il commence à être connu. Les personnes elles-mêmes, le bouche à oreille fonctionne et peuvent nous contacter aussi. Et donc, en fonction de nos disponibilités, on fixera un rendez-vous. Je vais boire un petit peu d'eau. L'idée, quand une femme entre dans notre bureau, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on puisse lui laisser le temps de se raconter, de déposer ce qu'elle souhaite, là où elle en est de son parcours, du moment de crise. Alors, c'est vrai qu'au sein du commissariat, les personnes qui arrivent, on rencontre quand même beaucoup de femmes qui sont sur... soit un départ, soit une prise de conscience, soit juste après des faits de violence, donc dans un contexte de crise. Donc c'est aussi notre bureau, c'est aussi un sas de décompression. On prend le temps, voilà. Et l'idée, c'est qu'elle puisse se raconter, nommer ce qu'elle vit, sans se sentir jugée. Alors je dis pas que c'est toujours je ne sais pas ce qu'elle ressent à chaque fois, mais c'est quand même un principe pour lequel on s'investit, c'est cette question du non-jugement. Et c'est aussi de co-construire avec elle la pensée, c'est-à-dire de pas se soustraire à ses démarches. Comme on l'a évoqué depuis le début de la matinée, en effet, sur Poitiers, dans la Vienne, il y a des dispositifs qui existent et ils sont importants et nécessaires, mais pas que, en fait. Il y a aussi la question des ressources personnelles des personnes, c'est-à-dire que passer que par de l'institutionnel, des dispositifs, ça peut aussi générer d'autres violences. Et bien souvent, ces femmes qui ont évolué dans un contexte de violence, elles sont en capacité, elles ont développé des stratégies importantes pour se protéger, elles ont des capacités réelles, personnelles, et c'est aussi de co-construire avec elles et de les amener à cheminer avec elles pour trouver aussi les solutions les plus adaptées. Alors, parfois c'est le dispositif qui va être important, et puis parfois ça va être complètement autre chose, et c'est important aussi de travailler avec la famille, les amis, etc. Je voulais rappeler ça parce que ça me semble important. Il n'y a pas que les dispositifs, même s'ils sont nécessaires, évidemment, et sur lesquels on s'appuie, évidemment, aussi. Donc, la question de la co-construction et du respect des volontés de chacun et de chacune. C'est-à-dire qu'on a entendu ce matin aussi sur la question du secret professionnel. Évidemment, ça questionne. Doit-on signaler une situation extrêmement qui peut nous inquiéter parce qu'aussi, quand on nomme les violences, ça peut susciter aussi de la sidération de la part du professionnel. Mais alors, doit-on signaler ne doit-on pas signaler? En tout cas, faire avec la temporalité de la personne. Parce que si la personne... On sort les plans hors sec de suite pour parce que nous, en tant que professionnels, on a besoin aussi de se rassurer, parce que c'est là toute la difficulté aussi de la question des violences conjugales, de l'intimité, et puis de ce que chacun est en capacité d'éprouver et de mettre en place pour se protéger. voilà, doit-on sortir tout ça et rajouter de la violence et que la personne qui est concernée en premier lieu se sente complètement dépassée par les événements et dépossédée de son histoire et de son cheminement, ou alors co-construire, prendre le temps et de voir voilà, les possibilités et ce qui sera le plus adapté pour elle. Donc ça, c'est impératif dans nos missions, en tout cas, à mon sens. Donc, travailler avec les capacités des personnes. Voilà. Et une fois que ces personnes-là vont se raconter et vont essayer d'exprimer leurs désirs, leurs volontés, et de co-construire avec elles, nous, en tant qu'intervenants sociaux en commissariat, on ne va pas axer sur un accompagnement à long terme. On va évaluer avec elles, et l'idée, c'est de pouvoir orienter sur alors, soit des dispositifs, soit des non-dispositifs, je les appelais comme ça, et ça va être de manière ponctuelle. Ça peut être aussi... je me répète, hein, c'est ça. Non, je vois que tu rigoles. On peut aussi se déplacer physiquement. Par exemple, alors ça nous arrive de temps en temps, mais on ne peut pas puisque, tout le temps, puisqu'il y a quand même beaucoup, beaucoup de situations. Mais d'accompagner une personne au sein des UMJ, ça a pu nous arriver, parce que ce n'est pas simple aussi d'aller... dans un CHU, rencontrer un médecin légiste, c'est quelque chose voilà, d'accompagner sur de rencontrer des professionnels de la CAF, les assistantes sociales de secteur, etc., pour faire du lien et justement ne pas répéter et de se re-raconter ce qu'on a pu dire au préalable. Les orientations au sein des dispositifs, je vais vous dire les plus courantes. On va orienter vers des collègues juristes du CIDFF, du SAVI 86. On va orienter vers le SIAO, la Croix-Rouge, et co-travailler avec la Croix-Rouge pour la mise en place des mises à l'abri. Sur le centre psychotrauma, sur les CMP, enfin tous les centres de soins psychologiques. Au niveau du droit commun, toutes les maisons des solidarités, assistantes sociales, etc. On va travailler parfois avec le SPIP pour justement faire du lien aussi. Par exemple, quand il y a une interdiction d'entrer en contact avec l'auteur et que la victime nous signale qu'en fait elle est harcelée et que ça continue, on va se mettre en lien avec nos collègues du SPIP pour voir ce qui est possible de faire et de faire remonter auprès du juge d'application des peines. Mais ma collègue Sandra va en parler beaucoup mieux que moi. En tout cas, voilà, on étoffe le réseau, on va en parler tout à l'heure, de ce travail en partenariat, mais qui est essentiel aussi pour améliorer la prise en charge, pour que les choses aillent peut-être plus vite et que la prise en charge soit globale. Je vais aussi rebondir sur ce que disait Angélique tout à l'heure. Bien que le fait qu'on travaille au sein d'un commissariat, le fait de déposer une plainte n'est pas une fin en soi. C'est-à-dire que, encore une fois, on va respecter la temporalité, le cheminement des personnes. Et si ce n'est pas le moment de déposer plainte, ben ce n'est pas le moment de déposer plainte. En tout cas, elle aura accès à cet espace au commissariat. Elle sait qu'on existe, qu'on peut se rencontrer, qu'on a un lien privilégié avec les policiers, qu'on peut organiser plus tard des rendez-vous pour que le dépôt de plainte aussi ne s'effectue pas dans une précipitation et dans quelque chose qui dépasse. Donc ça, on a l'habitude de travailler avec les fonctionnaires de police pour organiser des rendez-vous et que ça se passe de manière plus sereine. Parce qu'aussi, il faut le rappeler, c'est important, parfois, la réponse pénale, elle ajoute de la violence à la violence, puisque parfois on est extrêmement déçu des réponses pénales, de la suite donnée par le parquet. Et c'est aussi notre travail d'intervenants sociaux en commissariat d'accompagner la suite, c'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on n'est pas reconnu pénalement qu'on n'est pas victime. Et ça, c'est aussi tout un travail de mise en mots qui est nécessaire à faire, parce qu'il y a encore du boulot sur ce point-là. Et puis pour conclure, je vais donner juste deux autres aspects. Je vous donne quelques chiffres là, comme ça. Je n'ai pas des chiffres exhaustifs. On remplit des statistiques, mais je ne les ai pas emmenées. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que sur une année, un en temps plein, commissariat, on rencontre à peu près 380 femmes par an, ce qui est énorme. Sachant que sur ces 380 femmes par an, il y en a à peu près 60% qui ne sont absolument pas connues des services sociaux. Donc ça veut aussi dire que c'est un dispositif qui permet une autre porte d'entrée. Je vais insister aussi sur un autre point, c'est que les personnes qu'on rencontre, ces femmes qu'on rencontre, il n'y a pas de profil type. Toutes catégories socio-professionnelles, toutes cultures sont confrontées à la question des violences conjugales. Je le rappelle vraiment, c'est important. Et puis pour conclure, je crois que peut-être pour combattre ce fléau, je sais pas, ouais, je sais pas si on dit ça comme ça, en tout cas le fait de pouvoir de s'autoriser à en parler et de rompre l'isolement, c'est aussi une porte d'entrée pour en sortir. C'est-à-dire que je crois que ce qui est difficile, c'est de mettre en mots. La partie dans laquelle on intervient ce matin, c'est dire la violence. Et je réinsiste sur le fait que pour dire la violence, il faut être en capacité d'écouter et de recevoir cette violence pour en faire quelque chose et co-construire. Et puis je vais laisser la parole à ma collègue Sandra. Voilà. Merci.
Bonjour. Donc moi je suis. Qu'est-ce qui va pas ? Putain. Okay. Alors moi je suis assistante sociale détachée dans le corps des conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation au service pénitentiaire d'insertion et de probation de la Vienne. Donc aujourd'hui, alors, ça, en plus il faut faire court et. J'ai la grande mission de faire apparaître les auteurs aussi sur cette journée. J'ai vu qu'il y avait pas mal de questions. Alors, je travaille pour le ministère de la Justice, mais je ne suis pas la justice, donc je ne pourrais pas apporter toutes les réponses. Donc, le SPIP est un service pénitentiaire à compétence départementale. Ce service rayonne donc sur tout le département. Il y a une antenne en milieu ouvert, qui est à Poitiers, et une antenne en milieu fermé, à Vivonne. Je ne vais pas trop vous faire ce laïus de comment fonctionne le SPIP. Toutefois, ce que je peux quand même vous raconter sur ce service, c'est qu'il y a plusieurs disciplines. Il y a psychologue, éducateur, personnel administratif, des conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation, une assistante sociale, une animatrice culturelle. J'espère que j'oublie personne. Je regarde mon collègue qui ne me regarde pas, donc qui ne m'aidera pas. Et les agents PSE, merci, placement surveillance électronique. Si tout va bien. Alors, moi, j'interviens en milieu ouvert. Quand je vous dis que tout le département est couvert, c'est qu'on intervient autant Châtellerault, Montmorillon, Civray, enfin, tout le département. Je ne vais pas vous faire tous les noms des bleds. Ouais, je vous épargne ça aussi. On intervient et en prise en charge individuelle et en prise en charge collective avec les missions suivantes. Là aussi, je vais garder ma feuille pour ne pas trop en oublier. Favoriser la réinsertion, donc on va les appeler des PPSMJ. Des personnes placées sous main de justice. Veiller au respect de leurs obligations qui sont imposées par le magistrat, qui leur sont imposées. Alors, on est mandaté le plus souvent par le juge de l'application des peines. Toutefois, ça peut être aussi le juge d'instruction. On va le dire comme ça. Assurer les suivis des mesures affectées, informer les autorités judiciaires du déroulement des mesures, aider à la prise de décision de justice et l'individualisation de la peine adaptée à chaque situation de chaque personne. Prévenir les effets désocialisants et maintenir les liens familiaux et sociaux de la personne détenue. Ou en milieu ouvert. Je vais pas. Alors, dans notre boulot, il y a le suivi et le contrôle, côté insertion et probation. Réfléchir au passage à l'acte. Donc là, on va pouvoir parler, pour les auteurs de violences conjugales, de violences conjugales, veiller au respect des obligations et repérer les besoins et les orienter vers les partenaires de droit commun. Ça a été rappelé à plusieurs reprises, c'est vraiment très important. On travaille en partenariat, en réseau. On évoquera le réseau tout à l'heure, toutes les trois. On le co-anime avec Amélie. Toutefois, il y a plusieurs personnes là qui font partie du réseau. Ça me paraît vraiment important parce que souvent on parle, bon, il y a depuis tout à l'heure, et c'est bien normal, on parle de la prise en charge des victimes de violences conjugales. Toutefois, tant qu'il y a des victimes, il y a des auteurs. Tant qu'il y a des auteurs, il y a des victimes. Par exemple, sur les prises en charge individuelles, oui, il y a les prises en charge individuelles, mais collectives. Je vais essayer de faire rapidos parce que je sais qu'on est short, donc je ne vais pas développer les prises en charge individuelles, mais j'en dirai deux mots quand même tout à l'heure. Sur les prises en charge collectives, il y a un stage de responsabilisation en direction des auteurs de violences au sein du couple et sexistes. Et ce groupe a été co-inventé avec nombreux professionnels qui sont là dans la salle, Alexia, Mélanie, Louise, alors je vais en oublier encore, mais il y avait aussi le docteur Villain qui en fait partie. On a essayé de balayer toutes les questions, que ce soit sur l'impact à l'égard des enfants, les victimes un petit peu, enfin leur prise en charge, et surtout de pouvoir réfléchir, je vais prendre mes petits post-it, ça sera plus facile pour rien oublier. Voilà, d'identifier les comportements violents et contrôlants, les décrire avec le plus de précision possible, les actes, les émotions, les pensées, qu'on puisse ne rien oublier. Alors, différents sujets sont abordés. Alors, c'est durant trois jours à hauteur de 6 heures par jour, au SPIP de la Vienne. Ça va, je paraissais fort, ouais. La première journée où on a la chance d'avoir l'intervention de Louise Attani et d'Hélène Mérade, donc une avocate et une psychologue, je ne veux pas dire de bêtises, une psychologue, on va dire, qui intervient sur les différentes formes de violence, les aspects juridiques, le sexisme, la psychologie du droit des femmes, la définition du couple, les aspects liés à l'interculturalité. Nombreux sujets sont balayés. L'idée vraiment aussi sur ce groupe, c'est qu'il puisse y avoir de l'interaction. L'idée, ce n'est pas d'avoir un intervenant et des il y a de l'interaction, il se passe beaucoup de choses. Je rappelle que c'est un stage de responsabilisation, il n'a pas de vertu à transformer quelqu'un, toutefois à semer un petit peu des graines et des espaces de réflexion. Sur la deuxième journée, on va être davantage sur identification et illustration en fait, de ces violences, avec l'intervention de Louise Attani, encore une fois, et d'une compagnie de théâtre qui s'appelle la compagnie Arlette Moreau. L'idée, c'est de mettre en image et de pouvoir faire en sorte que les personnes accueillies durant ce stage puissent être actrices. Et alors, il y a du théâtre forum. J'ose imaginer que tout le monde en a un petit peu entendu parler. Et d'un coup, on prend la place d'eux, on réfléchit comment et comment on peut imaginer les choses. Ou d'un coup, le cycle des violences et les émotions, parce qu'on les laisse bien trop souvent de côté, sont abordés. Et le cycle des violences avec, j'ose imaginer, là encore une fois, vous en avez entendu parler, je ne vais pas décrire le cycle des violences conjugales. Donc des mises en situation, que ce soit sur des violences sexistes et ordinaires, parce que beaucoup de choses en fait passent comme souvent durant, en l'occurrence cette journée, imaginez que tel comportement ou tel propos puisse être identifié comme sexiste par exemple, c'est une vraie découverte par exemple pour certains auteurs. Là encore une fois, je rejoins ce que disait Amélie juste avant moi, il n'y a pas de profil type d'une victime de violence conjugale, il n'y a pas de profil type de l'auteur de violence conjugale. Quand on parle de catégories socio-professionnelles ou on va rester là-dessus, déjà ce serait pas mal. J'essaie de faire vite. Hein. Est abordée la domination, la notion d'emprise et la manipulation. Sur le troisième jour, et donc avec l'intervention de Mélanie et Alexia ainsi que Daniel Villain le matin, sur les répercussions sur les victimes, que ce soit physiques ou psychologiques, les victimes directes et indirectes, dans le cadre des violences conjugales. Voilà, déjà, vaste sujet abordé le matin, là encore une fois, qui génère beaucoup de réflexions. Et l'après-midi, et là, c'est avec le... Ouais, et l'impact sur... Ben, quand je parle des victimes directes et indirectes, évidemment, alors je parle des enfants, ça peut être les familles, aussi l'entourage, enfin ça peut être... c'est très large. Donc direct et indirect. Et l'intervention du SPIP sur la dernière demi-journée avec les stratégies d'évitement qui sont abordées. Donc là, cette année, par exemple, il s'agissait de deux de mes collègues, Catherine Champeau et Guillaume Martin, qui intervenaient sur ce sujet-là. Et ce qui nous paraissait aussi important sur cette demi-journée, c'est de rappeler qu'il y a des relais extérieurs pour la prise en charge des auteurs. Alors on dit de violence conjugale, alors je vais quand même apporter un petit... Je m'étais dit je ne le ferai pas, mais je vais le faire quand même. Il y a les violences conjugales et il y a aussi les violences au sein du couple, tout ce qui se passe en termes de violence au sein du couple. Nous n'avons pas toujours affaire à un dominant et à la notion d'emprise, c'est important de le rappeler. Toutefois, en termes de qualification judiciaire, on est sur des violences, alors là, effectivement, circonstances aggravantes, le fait que ce soit le conjoint, mais c'est vrai que sur l'intitulé, par exemple, on va être sur des violences par conjoint. Donc il aurait rappelé qu'il y a le CMP Espace Vienne, qui est aussi un de nos interlocuteurs privilégiés dans le cadre de la prise en charge des auteurs de violences conjugales. Il faut savoir aussi que dans les auteurs, alors là on parle de violences conjugales, mais dans les auteurs au sens large qu'on peut rencontrer au SPIP, il y a des victimes de violences conjugales. C'est-à-dire quand je dis qu'il n'y a pas de profil type, j'ai travaillé à plusieurs reprises avec Amélie sur prise en charge d'une victime qui en l'occurrence était aussi condamnée. Voilà, il n'y a pas de profil type. Ensuite, là c'était ce stage, on en est au troisième là dans la Vienne. On se félicite, on peut le dire, des résultats jusqu'alors. Il faut savoir qu'ils sont tous reçus en entretien individuel, que ce soit pendant 12 mois, 18 mois, et pour certains jusqu'à 20 ans, ça dépend des mesures. Ben ouais, alors je prends le petit, ben c'est qu'entre les deux, il se passe plein de choses. Ils ne sont pas tous... Alors, les personnes qui font partie de ce stage de responsabilisation ne sont pas toutes condamnées pour des violences au sein du couple ou des violences conjugales. Ça a été repéré par des collègues, ça peut être échangé en entretien avec les principaux intéressés qui ont accepté de participer à ce stage. Il faut savoir que ça peut être... Il y a plein de cas de figure. Là, j'ai essayé de les prendre sous les yeux avec une de mes collègues, Catherine Champeau, l'année dernière. On a essayé de faire un état des lieux au niveau du service, savoir un petit peu ce que représentait la prise en charge des auteurs de violences conjugales au SPIP de la Vienne. On était en avril 2018, on n'a pas refait les calculs parce que je vous fais... Bon, on n'a pas beaucoup le temps. 66 hommes, 3 femmes, majoritairement entre 20 et 50 ans. Il y a les mêmes proportions, qu'on soit sur 20, 30, 30, 40 ou 40, 50. Moins de récidivistes que de récidivistes. On était à peu près à 24 récidivistes et 42 non-récidivistes. Et là, on touche à des violences par conjoint, des violences en état d'ivresse manifeste, que je tiens à préciser par rapport à ce que tu disais tout à l'heure. Donc là, c'est pour ça que c'était intéressant d'avoir le regard de nos collègues, c'est-à-dire que sur l'infraction, il n'est pas noté par conjoint. Donc c'était intéressant et pour nous, enfin formateurs, de se rendre compte de à quel moment en fait, le par conjoint est précisé. Les appels malveillants, à chaque fois, je vous donne l'intitulé de l'infraction. Il n'est pas précisé par conjoint. Violence en état d'ivresse manifeste, menace de mort réitérée contre personne et d'autres sur conjoint, détention d'armes, agression sexuelle, viol, violation de domicile, dégradation, harcèlement avec incapacité ou sans incapacité, violence aggravée par deux circonstances suivies d'incapacité supérieure ou égale à 8 jours. Bon, je vous passe, il y en a d'autres, mais... Violence sur une personne vulnérable, meurtre, violence habituelle n'ayant pas entraîné d'incapacité par conjoint, menace de mort avec ordre de remplir une condition, violence par une personne en état d'ivresse manifeste suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours, menace de mort matérialisée par écrit, image ou autre. Donc généralement, donc, les auteurs qui participent au stage peuvent être condamnés pour ces... Par ces condamnations... Ouais. J'arrive plus à parler. Ça y est, c'est fini. Donc ça, voilà. C'était un petit peu pour dresser un petit peu une photographie de la situation. Et au SPIP, on a des mesures, que ce soit des sources avec mise à l'épreuve, des suivis socio-judiciaires, travail d'intérêt général, et je vous en passe. On est aussi amené à faire des enquêtes d'aménagement de peine. C'est-à-dire, un auteur, quand il passe par la case garde à vue, il y a deux étapes. Il peut y avoir donc, du pré-sententiel, donc avant condamnation, et post-sententiel, après. Amélie, par exemple, elle exerce davantage sur son mandat, sur les contrôles judiciaires. Oui. Son autre mi-temps, en l'occurrence avec des contrôles judiciaires, des personnes qui sont placées sous contrôle judiciaire, en pré-sententiel, où il dispense également un stage, où il parle de sensibilisation aux violences conjugales, c'est toujours compliqué. Dans le cadre d'un contrôle judiciaire, il peut y avoir des obligations, une interdiction de paraître à tel endroit, une interdiction d'entrer en contact avec telle personne. Il peut y avoir, par exemple, il peut y avoir plein d'obligations, de soins. Donc là, mes collègues vont veiller au bon respect en fait, des obligations qui font que cette personne elle reste dehors. Nous, au niveau du SPIP, quand la personne est condamnée, on veille également au bon respect de ses obligations. Les interdictions, on peut, par exemple, quand il y a une enquête, si on peut proposer une éviction, alors les enquêtes. Quand il y a une personne qui est en garde à vue, ils sont soit rencontrés par Prism, soit par le SPIP le week-end, un week-end sur deux, maintenant. Les personnes passées en garde à vue pour apporter un avis éclairé au magistrat dans le cadre d'une comparution immédiate. Dans ce cadre-là, on fait une enquête sociale rapide et on peut, par exemple, dire que ça pourrait être intéressant qu'il puisse y avoir, je sais pas moi, une éviction du conjoint, si c'est possible, une interdiction d'entrer en contact. Voilà, c'est aussi l'occasion de faire des propositions. Et quand la personne, donc on n'est plus sur du présententiel, sur une composition pénale, on passe aussi à la condamnation. Il peut y avoir par exemple une peine mixte, c'est-à-dire une partie en ferme, une partie avec sursis mise à l'épreuve, et la partie ferme ou que du ferme. Soit il y a mandat de dépôt, il part directement à Vivonne, soit la partie ferme, si elle est inférieure ou égale à 24 mois, je ne vous parle pas de la récidive, on ne va pas aller jusque-là, mais on va dire jusqu'à 24 mois, on peut faire des propositions d'aménagement de peine. Et dans ce cadre-là, il peut y avoir un placement sous surveillance électronique, ce qui est proposé au juge de l'application des peines. C'est proposé, ça passe en débat contradictoire où est présent le parquet, le juge de l'application des peines, la personne, son avocat et notre rapport, le rapport du SPIP. Et par exemple, dans le cadre de ces aménagements de peine, et là je recentre sur la prise en charge des auteurs de violences conjugales, on travaille, alors là je regarde plus particulièrement ma collègue qui est au CHRS, on a fait se rencontrer nos directions, qui s'étaient déjà rencontrées par ailleurs, hein, mais en tout cas sur ce sujet-là, pour envisager le développement des placements extérieurs, c'est-à-dire une prise en charge de l'auteur dans une structure qui peut proposer une prise en charge globale et adaptée, plutôt que la détention, par exemple. Mais peut-être tu pourras plus raconter sur le CHRS ce que vous proposez, mais de toute façon, on ne va pas avoir le temps, donc elle vous racontera une autre fois. C'est ça, hein ?
Oui, ouais. Oui, ben voilà.
En tout cas, il y a des choses qui sont réfléchies. Il y aurait tellement à en dire, j'essaie de faire rapide. Il existe aussi une prise en charge collective de mes collègues qui s'appelle le PPR, Programme de prévention de la récidive, où des choses sont pensées sur plusieurs séances, sur plusieurs semaines. C'est pensé avec différentes réflexions sur les passages à l'acte, en l'occurrence la violence. Il y a plein de choses qui sont réfléchies dans plein d'espaces sur la prise en charge des auteurs. Il faut savoir que voilà, ce n'est pas une partie à part. On s'efforce vraiment, en tout cas sur le département de la Vienne, à travailler main dans la main. Il faut savoir que sur le stage de responsabilisation, quand on a co-imaginé ce stage, il y a des structures qui ont été contactées, des professionnels, qui, parce qu'ils interviennent auprès de victimes, se refusaient d'intervenir auprès d'auteurs. Donc ça a été bon. Il y a des choses qui ont été repensées, revues, mais comme là je me permets, et là pour le coup maintenant, instance qu'on coordonne avec Amélie, mais le réseau, par exemple l'arrivée du SPIP il y a une dizaine d'années dans ce réseau, n'était pas vu d'un bon œil, pour la simple et bonne raison que nous prenions en charge les auteurs de violences. Ça a beaucoup bougé, la preuve. Maintenant, on anime ce réseau, mais ce n'était pas une partie gagnée. C'est vraiment important, en fait, de pouvoir échanger et de collaborer. Sans ces collaborations, c'est extrêmement difficile. Cet auteur, il est aussi papa, quand on parle aussi des impacts sur les enfants. Eh bien, il y a des choses à penser, il y a des points rencontres qui sont mis en place. Alors là, après, il y a l'ordonnance de protection qui pose des choses. Si le cadre de cette ordonnance n'est pas respecté, ça peut être une incarcération pour non-respect des obligations. Il y a vraiment un grand intérêt à bosser ensemble. Je vais clore le sujet SPIP, prise en charge des auteurs, parce qu'on s'était promis de faire le parallèle par rapport au réseau violence conjugale Poitiers-Grand Poitiers. Nombreuses personnes présentes aujourd'hui ici font partie de ce réseau. On vous a imprimé des petites plaquettes sur ce réseau, si vous souhaitez avoir des infos. Il faut savoir qu'il est à destination des professionnels. C'est pas le mail, par exemple, il n'est pas à destination des victimes. C'est vraiment un aiguillage sur la prise en charge des victimes par les professionnels. Parce que petit parallèle sur ce qui était raconté tout à l'heure, et là après je laisse la parole à mes collègues, par rapport aux formations des professionnels. Alors le réseau n'a pas vocation à former les professionnels sur la question des violences conjugales. Toutefois, on a un maître... Enfin, c'est vraiment très important pour nous de faire part de l'existence de ce réseau à tous les professionnels, qu'on parle de médecins, de directeurs de maisons de quartier, d'animateurs, d'éducateurs, de sages-femmes. Là, par exemple, on est intervenu auprès des directeurs de maisons de quartier à la CAF cet après-midi. Les sages-femmes, et voilà, je vais les laisser prendre le relais. C'est...
Alors peut-être, et puis je vais laisser la parole à Angélique après, mais peut-être pour préciser, donc le réseau violence conjugale, c'est un collectif de professionnels qui se réunissent à peu près toutes les 6 semaines, à savoir qu'aujourd'hui sur le réseau Poitiers-Grand Poitiers, à chaque réunion, on est environ 40, 45, parfois 50 professionnels, ce qui est énorme, et des professionnels de divers horizons. Donc il y a des médecins, des travailleurs sociaux, des psychologues, des psychiatres, des avocats, la CAF, des bénévoles, des stagiaires, le planning familial, des associations. Enfin, bon, je vais en oublier forcément. La police, la gendarmerie, très important. Voilà, c'est, l'idée, c'est d'avoir une approche la plus pluridisciplinaire. Pluridisciplinaire, c'est pas facile à dire, possible, afin d'améliorer la prise en charge des personnes victimes, l'accompagnement des auteurs, de pouvoir s'identifier, parce que le fait de s'identifier entre professionnels, c'est beaucoup plus simple de prendre son téléphone et de dire j'ai une situation, je suis en galère, et de connaître le prénom du collègue qui connaît un autre collègue, qui et vraiment on en a perçu l'efficacité au fur et à mesure que ce réseau a grandi. Je rappelle aussi un principe hyper important du réseau, ces réunions elles ont lieu sur des temps de travail. Les professionnels qui s'engagent à venir à ces réunions qui durent au bas mot 3 heures toutes les 6 semaines viennent sur leur temps de travail, donc de manière, est-ce qu'on peut dire bénévole ? Non, parce qu'elles sont sur leur temps de travail. Néanmoins, l'engagement et les réflexions, parce qu'en fait, et c'est là où je vais passer la parole à ma collègue Angélique, sur aussi ce qui est en train de se mettre en action, notamment avec la faculté, mais aussi sur tout un tas d'autres actions possibles. Ça demande du temps hors cadre de ces réunions, qui demande un engagement. Alors, j'ai pas envie de dire militant, mais je vais le dire quand même, et qui est important de rendre visible aujourd'hui, donc c'est en ça aussi, rendre visible l'invisible. Et puis je vais te laisser la parole, ouais, Angélique.
Juste 2 minutes pour compléter. Il y a 5 réseaux sur le territoire, donc il y a le réseau de Poitiers, de Châtellerault, Montmorillon, Civray et Loudun. C'est très important de les citer parce qu'on est sur Poitiers, donc là on aborde l'existence sur le territoire de Poitiers, mais au niveau rural il y a de grandes problématiques. C'est les dispositifs sont difficilement accessibles et donc je tenais à valoriser le travail des professionnels en milieu rural et j'espère qu'il y aura des projets qui vont se développer aussi parce que souvent c'est comme je le disais déjà sur Poitiers les femmes expriment le fait de ne pas repérer l'existant. Alors vous imaginez quand vous êtes en pleine campagne, voilà. Donc là, donc c'était important. Les réseaux aussi, sur 5 réseaux, 40 sur Poitiers, on a environ, j'ai pas encore comptabilisé dans le cadre de l'état des lieux, mais on est plus d'une centaine, de professionnels qui sont investis. Donc effectivement, on peut le dire, c'est une forme de militantisme, même si c'est un temps, une volonté personnelle soutenue par l'association. C'est des instances où il n'y a pas de financement. Si les réseaux s'arrêtent demain, il n'y a plus d'instances liées, il n'y a plus d'existants, concrètement.
On parle de militantisme, toutefois, on peut aussi reconnaître la volonté de nos directions, par exemple,
oui,
de
ça.
Nous laisser le temps
aussi.
De pouvoir investir ces espaces, en l'occurrence, par exemple, d'être là aujourd'hui toute la journée,
ça.
De pouvoir être là sur toutes les 6 semaines sur les temps de réseau. C'est quand même une place qu'on nous laisse pouvoir prendre. Et ça, c'est vrai qu'on parle de militantisme, mais c'est aussi des volontés de service que de vouloir que les professionnels s'inscrivent dans sur ces questions-là.
Voilà, merci.
Merci.
Merci. Donc on va s'arrêter à 13h pile pour avoir vraiment une heure de pause. Donc je vais prendre des questions assez rapides et après on aura la conclusion de la matinée par Marie-Josée Griom.
Merci. Petite question pour Amélie Bertin, simplement parce que je sais que vous recevez les femmes au commissariat. Le problème de l'entrée dans le commissariat, on sait que c'est dissuasif pour certaines personnes de pouvoir rentrer dans cet espace-là. Est-ce que vous avez pensé voir les... Je parle du premier entretien, hein, enfin, et pas ce que tu as décrit tout à l'heure quand vous allez après accompagner les gens. Les voir ailleurs, sur une permanence délocalisée ou que sais-je.
Oui, alors oui, c'est tout à fait pensé, parce qu'en effet, pour certaines personnes, c'est pas possible. C'est rédhibitoire, le commissariat. Il m'est arrivé de faire des entretiens au bar en face. Il y a un bar en face du commissariat. Bah, j'ai fait des entretiens dans ce bar. C'est pas le plus souvent, mais ça m'arrive quand c'est... Voilà. Au sein des maisons de solidarité, souvent, c'est plus simple, parce que c'est des lieux qui sont repérés. Alors, j'essaie au plus... Enfin, on essaie au plus d'être dans des lieux plutôt institutionnalisés aussi, parce que... Pour, voilà. Mais tout est possible, en fait, dans ces missions. Alors, on s'est déplacé à domicile, on le faisait beaucoup au départ. Moi, ça faisait 8 ans que je suis au sein du commissariat déjà. Ma pratique, elle a évidemment évolué au niveau, en fonction de mon expérience. J'allais au domicile assez facilement au début de ma carrière au commissariat. Et puis, il y a eu des moments où je me suis sentie en réelle insécurité. Je rappelle, on travaille sans mandat, personne ne sait où on est. Alors, on peut parler, dire à la police où on est, mais voilà, c'est quand même parfois pas forcément rassurant. Donc, on le fait de moins en moins. On le fait quand vraiment la personne n'a aucune possibilité de mobilisation et quand on a évalué déjà au téléphone que la situation est quand même à peu près sécure. Mais j'avoue qu'on le fait de moins en moins.
Par contre, Amélie, il y a certains auteurs de violences conjugales qui ont des interdictions de fréquenter les débits de boissons, donc le bar.
Oui, mais ça, ouais, tout à fait. Mais ça, c'est, je parlais des victimes.
Une question au planétaire.
Vas-y. Pour savoir si vous avez un recul sur les stages de responsabilisation par rapport, je ne sais pas, est-ce que vous revoyez les personnes après un mois ou deux mois, par exemple, ou est-ce qu'il y a un suivi?
Ah oui, mais alors tous ceux qui bénéficient de ce stage sont tous reçus en entretien individuel dans le cadre d'une mesure. Ce que je disais tout à l'heure, ça peut être 12 mois, 18 mois, 24, 36, et j'en passe. Ça peut aller jusqu'à 20 ans. Donc, ils sont tous reçus en entretien individuel, mais dans le cadre des prises en charge. C'est-à-dire que la prise en charge collective, c'est une manière de prendre en charge, en fait, sur dans le cadre de la mesure, dans sa globalité. Mais évidemment, il est toujours reçu, et en individuel, je veux dire. Et j'essaie de réfléchir à ce que je suis en train de dire. Et alors, concernant l'évaluation, aujourd'hui, en fait, on ne l'avait pas fait. On n'avait pas pris de temps d'évaluation. Il y a eu une première expérience. Le groupe de réflexion au niveau du SPIP s'est étoffé. Donc, on a pensé les choses encore autrement. Et cette année, pour la première fois, on a commencé à penser à un questionnaire sur les premières questions, au moment de l'orientation par les travailleurs sociaux, les collègues qui orientent vers le stage. Et ensuite sur les premiers ressentis, les premières questions, les premières interrogations qu'on a envie de voir apparaître et pouvoir faire exister, par exemple, cette feuille un petit peu dans le dossier pour pouvoir avoir des retours à court, voire moyen terme. Je ne sais pas si ça répond à la question.
Merci.
Bonjour, merci pour votre intervention déjà. C'est une question que j'aurais pu poser à Mme Thomas tout à l'heure, qui nous a présenté une photographie fort idéale du travail de police, et je le remercie. C'est pas la réalité sur mon terrain, en tout cas, dans un département limitrophe, sans le nommer. Donc ma question, c'est plutôt en tant que travailleurs sociaux, quelle réponse on peut apporter aux femmes à qui on refuse le dépôt de plainte? Quel accompagnement proposer, en fait?
Alors, je vais me permettre de commencer à répondre à cette question. Le dépôt de plainte, c'est un droit. Alors, ça arrive encore qu'il y ait des refus de dépôt de plainte. C'est aussi de rappeler les droits et de travailler sur... Il n'y a pas le choix, en fait. Vous vous présentez au commissariat et il n'y a pas le choix. Et si. Alors, Sophie ne va pas être d'accord avec moi.
Alors, on peut faire, comme je l'ai dit tout à l'heure, on peut faire une enquête judiciaire sans dépôt de plainte. Mais il faut quand même qu'on ait auditionné la victime de violence. Parce que sans audition sur procès verbal d'une victime de violence, on ne peut pas faire l'enquête.
C'est pas ça la question. C'est pas la question.
Ce que vous pouvez également faire, c'est écrire directement au procureur de la République, en fait, ni plus ni moins.
Bien sûr, le défenseur des droits, vous avez un défenseur des droits dans chaque département, dans chaque préfecture, et d'ailleurs, il y en a un aussi, normalement, dans chaque département, réservé au ministère de la Justice, à la pénitentiaire. Hein, Madame Spip doit savoir ça. Donc, Sarah, donc je pense. Alors, tant que j'ai le micro, j'en profite. Est-ce que vous vous êtes inspiré des expériences de stage qui ont lieu depuis 4 ans, si ma mémoire est bonne, ou peut-être 5, à Arras et 2 ans à Limoges? Des stages pour auteurs. À Arras, ça dure 4 jours.
Auteurs en pré-sententiel ou post-sententiel?
Des auteurs, certains... on leur dit, ou soit vous allez en prison, soit vous prenez un stage.
C'est présententiel. Hein,
présententiel, mais il y a aussi les deux formules à Arras.
Alors, non.
Il n'y a pas les deux formules à Arras.
Ah non, c'est pas, on ne les a pas rencontrés, on ne les a pas contactés. C'est vrai que dans la Vienne, en fait, on a concocté un stage avec les professionnels qui interviennent déjà localement et qui ont des sensibilités aussi sur la question des violences conjugales, que ce soit sur la prise en charge des auteurs ou la prise en charge des victimes. Et voilà, on a inventé quelque chose. Toutefois, vous avez raison, on devrait se rapprocher des stages déjà existants pour peut-être faire des parallèles. Toutefois, je ne vais pas vous faire le laïus de « on n'a pas beaucoup de temps, on manque de... » Ça en fait partie, mais dommage.
Merci beaucoup pour votre intervention. Donc, en fait, moi, j'aimerais vous remercier parce que et rebondir sur la pluridisciplinarité, c'est vraiment pas facile à dire. En fait, moi, j'exerce un nouveau métier. Enfin, je suis aide médico-psychologique de métier. Je vais faire assez court. Mais du coup, maintenant, je pratique la psychopédagogie. Donc, moi, qui est plus axée auprès des enfants. Et en fait, alors, voilà, grâce à Angélique, qui est à vos côtés aujourd'hui, eh bien, j'ai réussi. Il y a une maman qui est venue me voir avec ses enfants et qui ont été victimes de violences conjugales, qui sont parties. Donc, elle a réussi à aller jusqu'au bout du processus. C'est encore très compliqué parce que c'est encore en jugement. Le père refuse le divorce. Il met encore beaucoup, beaucoup de blocages. Donc, c'est très difficile parce qu'en fait, du côté du papa, maintenant, il a récupéré l'autorité parentale qui avait été dessaisie et qui a été redonnée. Donc maintenant, il a récupéré les enfants au domicile depuis 3 week-ends. Et là, il commence déjà à dire, de toute façon, moi, je veux les mercredis, je les veux du vendredi au lundi, je les veux toutes les vacances. Enfin bon, voilà. Donc ça redevient très compliqué. Moi, voilà, le travail pluridisciplinaire, je l'encourage et je le félicite parce que c'est grâce au travail avec Angélique qui me donnait des informations sur les différentes antennes à qui j'ai pu relayer aussi à la mère différentes informations de ce qu'elle pouvait faire. Parce que moi, je suis sur le département du 79. Donc, sur le 79, c'est, je pense, encore différent du département de la Vienne. Donc, voilà, bravo à vous qui œuvrez pour toutes ces femmes et aussi pour les auteurs. Parce que, donc, moi, la question aussi que j'avais, c'était le stage de responsabilisation. Est-ce qu'il y en a sur les départements du 79 ou pas du tout?
Faut que vous appeliez le SPIP, je sais pas.
D'accord, ok.
Je tenais juste à dire quelque chose. Il y a mes collègues là qui m'ont écrit un petit mot par rapport à la question. Alors, ça fait aussi un parallèle, mais pour s'inspirer aussi d'autres stages, j'ai quand même une collègue qui est sur le réseau de Loudun, Catherine Champeau, qui a fait mener tout un travail aussi de réflexion sur des prises en charge existantes au Canada. Ils avaient proposé d'ailleurs une journée dispensée par le réseau violence conjugale de Loudun. Voilà, qui a pu partager toute cette expérience et qui a pu également inspirer des réflexions au sein du service. Donc oui, on a été inspiré quand même d'ailleurs et donc on a fait tourner aussi les connaissances sur d'autres territoires.
Ok, ça marche. Merci.
Oui, bonjour. Ça serait pour savoir si au sein des commissariats et des gendarmeries, il y a une sensibilisation, une formation justement sur ce sujet-là, sur la prise de plainte, etc.
Par rapport aux fonctionnaires?
Oui, oui.
Alors, Sophie, elle répondra peut-être mieux que moi. Je sais qu'il y a eu une formation qui était dispensée par le CIDFF il fut un temps, mais je ne sais pas trop comment elle s'organise. Je n'ai pas envie de dire d'erreur. Sophie, peut-être... regardez, ah bah, ouais, s'il te plaît.
En tant que fonctionnaire de police ou de gendarmerie, nous avons un an de formation où nous apprenons tout ce qui est infraction pénale. C'est l'élément qui va permettre de nous permettre de faire une enquête judiciaire. La formation pour être enquêteur au sein des violences conjugales, c'est une demande du fonctionnaire pour partir en stage. Donc moi, je vais vous le dire clairement, je suis policier depuis 1999. C'est mon expérience professionnelle en Île-de-France et être passé aux assises de l'Essonne qui m'a fait aujourd'hui arriver à Poitiers et avoir la responsabilité que j'ai au niveau des violences conjugales et en tant qu'intervenante sociale sur pas mal d'endroits dans la Vienne, on va dire. On a une formation si on la veut. La formation, elle va vous dire des choses théoriques. Voilà. Sauf que c'est au fonctionnaire de s'impliquer dans ce qu'il fait. Et là, je peux pas prendre la responsabilité de tout fonctionnaire. Voilà. Je suis impliquée dans cette matière. Pourquoi ? Je ne sais pas. Parce que peut-être que je suis une femme. Parce que j'ai des enfants en bas âge et que je ne veux pas qu'il leur arrive des choses. Après, tous les policiers ou tous les gendarmes n'ont peut-être pas cette qualification ou n'ont pas envie de s'investir auprès des femmes victimes de violences.
Pour une dernière question et après je passerai le micro à Marie-Josée Grium.
Lorsque certains auteurs de violences sont condamnés à un suivi ou sont condamnés à entrer dans des groupes de parole, non ? Oui ou non ?
J'ai pas compris votre question.
Alors je la recommence. Certains auteurs de violences, oui, s'ils se passent au tribunal, peuvent être condamnés à un suivi psychologique ou à rentrer dans des groupes de parole, non ?
Alors, ils sont condamnés à une mesure, par exemple. Ça peut être, alors là, je parle de milieu ouvert, hein, oui, sursis avec mise à l'épreuve ou, je sais pas moi, sursis tige. Et dans ce cadre-là, il y a des obligations. Dans ces obligations-là, peut être précisée la participation, par exemple, au stage. Après, la prise en charge peut se décliner, comme je l'expliquais tout à l'heure, en deux possibilités. Il y a la prise en charge individuelle et la prise en charge collective. Après, à l'évaluation du travailleur social qui accompagne cette personne, de l'orienter vers le groupe de parole ou pas. Dans le cadre des obligations de soins, toutefois, ils sont obligés d'avoir un interlocuteur privilégié dans le domaine du soin par rapport aux infractions commises.
Alors, ces groupes de parole, d'après ce que vous me dites, oui, ils sont quelque part obligés d'y aller.
Oui, dans le cadre un de la peu. Prise en enfin, charge ça en
ou,
fonction de la
ça
réflexion
ou autre
du
chose, mais il faut qu'ils choisissent. Donc, ils peuvent choisir ça. Est-ce qu'il existe des groupes de parole libres où les hommes ne sont pas obligés d'y aller ? Parce qu'au planning, il arrive qu'on nous téléphone, que des hommes nous appellent pour nous dire « Je suis auteur de violence, est-ce que je peux trouver un lieu pour aller parler ?»
Alors, nous, on reçoit des personnes condamnées ou sinon qui sont en contrôle judiciaire. Après, les autres, par exemple, un auteur qui appelle et qui n'est pas dans les circuits judiciaires, nous, on ne prend pas en charge. CMP.
Et j'ai un autre élément de réponse par
CMP.
Rapport...
CMP.
Alors, et j'ai un autre élément de réponse par rapport à ça. Nous, en tant qu'intervenants sociaux en commissariat, on parle de la prise en charge des personnes victimes, mais notre intervention, elle s'axe là aujourd'hui davantage sur également la prise en charge des auteurs. C'est-à-dire qu'un auteur qui souhaite parler tout au même titre qu'une personne victime est déposée là où il en est, etc., etc. Ça, c'est possible aussi au sein du commissariat. Après, se pose la question, évidemment, s'il me dit « je viens de frapper ma femme », il y a une réflexion quand même à avoir. Et justement, mais en tout cas, il y a des choses qui vont être aussi possibles. Alors, ça sera individuel, mais il y a des choses. Et sur le territoire national, il y a des groupes de parole.
Oui, sur le territoire national, oui, mais moi je parle à Poitiers. Ouais. Moi je trouve qu'on ne s'occupe pas assez de ces hommes-là. En dehors, lorsque ce n'est pas obligé, lorsque ce n'est pas obligatoire, je trouve qu'on ne s'en occupe pas assez de ces hommes-là. Mm-hmm. Et ils sont dans la nature et, bon, et c'est très dur pour eux déjà de rentrer dans des groupes de parole. Alors s'ils veulent y aller, autant qu'on le fasse. Oui.
Juste pour info, quelque chose qu'on n'a pas dit. quand on parle de violence conjugale, on parle aussi des ex-conjoints, parce qu'on dit souvent le conjoint, même si la personne est séparée depuis X temps, et pareil, je pense aux appels malveillants et autres violences, il s'agit aussi d'un auteur de violence conjugale.
Juste pour une précision, le CMP Espace Vienne, ici à Poitiers, donc il dépend du CHU, hein, de Labourie, a une spécialisation justement sur les auteurs de violences, quelles qu'elles soient, et y compris violences sexuelles, dont des groupes de parole. Après, c'est à eux de déterminer.
Mais dans le cadre, dans le cadre d'une procédure, je crois.
Non, je ne parle pas d'une procédure. Madame interrogeait sur les gens qui ne sont pas forcément. Voilà, les gens qui, en libre, voudraient consulter à un moment donné, ben voilà, il y a une possibilité. Mais il faut qu'ils le sachent.
Merci beaucoup. Marie-Josée, je te laisse. Bien, eh bien, écoutez, il me revient de conclure. Donc, je vais le faire. Non, mais reste, ne bougez pas. Hein. Ne bougez pas. Peut-être que, parce que c'est très riche, ce qui s'est dit depuis ce matin, peut-être commencer d'abord par remercier tous les, hein, tous les, toutes les intervenantes de cette matinée et indiquer... Peut-être, puisque là, on a eu le regard des professionnels, et c'est, ce qui est, et c'est sans doute ce qui nous manquait depuis un certain temps, à différents niveaux. Hein, donc, ce qui nous manquait concrètement, hein, je dirais, parce que quand on mesure qu'on est quand même en 2019, que nous en sommes, là, les questions de la salle en témoigne, à nous poser la question de mes... Quand finalement je suis informée que quelqu'un aurait besoin d'aide ou que celui qui cogne sa femme juste à côté de chez moi est pris d'une conscience aiguë de ce qu'il est en train de faire, il y a un grand flou, il y a une méconnaissance hein, des solutions, des réseaux. Alors je salue ce réseau hein, puisqu'on va, on a juste commencé à travailler ensemble, mais je crois que c'est plus la question d'un maillage. D'un maillage, et ce maillage, on peut quand même s'interroger sur la nécessité de faire un maillage de nos jours. Toutes nos parutions, hein, avec Frédéric Chauveau, Lydie Baudiou, Frédéric Gosseau, il est encore là, je ne sais plus, je ne le vois pas, et d'autres collègues, ont toujours quasiment comme sous-titre « Histoire et actualité ». Et donc, j'ai envie de resituer toute cette matinée dans ce champ-là, hein, brièvement. Mais l'histoire, la question des violences contre les femmes, à l'encontre des femmes, elle est aussi vieille que le monde dont on a trace par écrit, je dirais. Hein. Donc, c'est au prisme de cette histoire-là que nous, aujourd'hui, dans notre, hein, dans notre champ, dans notre département, dans notre université, et puis plus largement au niveau national, on fait de la violence faite aux femmes une cause centrale. Mais on le fait comme s'il n'y avait pas eu d'histoire, d'une certaine façon. C'est-à-dire comme si ce qui fait que cette violence se répète, ce qui fait que ces femmes acceptent cette violence, et ça, quelle que soit leur culture, parce que hein, y a des différences interculturelles, on pourra peut-être y revenir, mais il n'empêche que dans toute culture, il y a des femmes qui acceptent une violence, peut-être d'abord en premier lieu parce que ça leur semble érotique, et ça, en tant que psychologue et psychanalyste, je crois pouvoir m'autoriser à le dire, hein, c'est ça qui pose question, et c'est donc ce silence et des femmes et des auteurs sur ce qui se passe chez eux et dans le couple. Voilà. Et ça, je crois qu'on n'a pas fini de travailler pour arriver à comprendre pourquoi le plus grand lieu de la violence, et là j'insiste pour le dire, c'est la famille. Parce que vous avez des auteurs qui vont être poursuivis en tant que tels, qui jamais ne toucheront personne d'autre hein, que leurs femmes ou que leurs enfants. Hein, vous l'avez évoqué, bien sûr que c'est pas nouveau la violence sur les enfants, mais on est en train depuis, je sais pas, 5 ans à peu près, vraiment, de se dire, mais les enfants qui assistent à ces violences conjugales, qu'est-ce qui leur arrive psychologiquement, psychiquement? Eh bien, ils sont, j'ai envie de dire, abîmés. Ils sont abîmés, c'est-à-dire que leurs processus de pensée vont être perturbés.
Et quand on regarde au niveau de l'histoire plus courte, hein, qui est celle de ces personnes que vous rencontrez, auteurs comme victimes, bien, c'est quand même remarquable de constater que la question de la violence, elle est là dès le début de leur vie. Alors, je ne sais pas ce qu'en dirait Mio, mais il y a des histoires de violence. Il y a des enfants qui ont été victimes de violences. Il y a des enfants qui ont assisté à des violences. Et ça, on le mesure de plus en plus aujourd'hui. Donc, est-ce que ça serait le propre de certaines familles, de certains milieux, hein, en tout cas de certains fonctionnements familiaux? Parce que le fonctionnement familial, il n'a pas de milieu socioculturel. Hein. Il y a des fonctionnements et indépendamment des milieux socioculturels. Alors, est-ce que ça serait lié à ça, hein? Peut-être, on peut en tout cas se poser la question. Je le prends par un autre bout, histoire, actualité. Moi, j'ai été frappée, le cas de dire. Hein. J'ai été frappée pendant l'été dernier, pendant les vacances, je me promenais au bord d'une rivière et tout à coup, deux jeunes se croisent, dont un garçon qui... agresse la fille qu'il rencontre en lui disant « Ah tiens, bonjour, espèce de salope », enfin, quelque chose dans le genre. C'est une façon de se dire « bonjour ». Voilà. Et j'ai eu sur le moment envie de lui mettre une claque. Oui, c'est pas bien. Il devait avoir 17 ans, elle aussi. Bon, on envisage de faire un travail, alors le planning familial l'a évoqué, mais les représentations genrées, les représentations sexistes, à l'heure actuelle, dans les collèges, alors il y a un ensemble de représentations. Mais il y a des lieux centraux où nous devons travailler pour arriver à changer ça. Parce que, au bout du compte, on le constate depuis des siècles, chaque siècle trouve ses réponses politiques, judiciaires, journalistiques et autres. Mais on a l'impression qu'on a affaire à quelque chose qui est invariant chez l'humain. Voilà. Donc, invariant, alors un invariant anthropologique, c'est Françoise Héritier qui dit ça. Elle appelait ça la valence différentielle des sexes. C'est-à-dire que dans toute culture, il y a toujours une valeur différente attachée à l'homme et à la femme. Bon. Elle pense qu'il nous faut encore très longtemps pour en sortir. Alors, j'espère moins longtemps qu'elle ne le pense. Mais vous voyez, il y a des invariants. Et quand on voit comment les jeunes peuvent s'en saisir, y compris quand ils ne sont pas dans un milieu où il y a de la violence, y compris quand leur père n'agresse pas leur mère. Mais voilà. Comment on met en relation violence et érotisme? Je crois que c'est quelque chose que nous avons vraiment à travailler et à interroger chez les jeunes, chez les étudiants. Bon, on a l'intention de le faire. J'espère qu'on aura l'argent pour y arriver. Mais voilà. Ça, c'est aussi une autre façon de voir histoire-actualité. Il y avait un autre point peut-être que j'avais envie de souligner rapidement, mais qui me semble important. Moi, j'étais touchée par nombre de vos témoignages. Vous avez quasiment toutes témoigné. Être témoin, c'est être impliqué nécessairement dans ce qu'on nous apporte, ou qu'on nous livre, ou qu'on nous donne. Ça dépend ce que veut en faire la personne qui est là. Mais je suis aussi étonnée que à aucun moment on n'ait pu entendre, c'est pas une critique, hein, mais qu'à aucun moment on n'ait pu entendre la difficulté que c'est de prendre en charge ces victimes et ces auteurs. Une étude qui a été faite à Strasbourg sur interroger les professionnels que vous êtes, qui sont nombreux dans la salle. Ce qui domine, c'est le sentiment, un sentiment d'impuissance, un sentiment d'incompréhension, que ce soit dans les services policiers ou gendarmerie et autres. Autrement dit, le fait de ne pas comprendre, trouver la clé pour agir de façon efficace. Alors, je tiens à saluer le travail que vous faites depuis plusieurs années et qui semble réduire de façon notable ce sentiment d'impuissance que, vous voyez, dans un autre département, on a trouvé très nettement dans une étude, voilà, par questionnaire et autres. Autrement dit, nous sommes aux prises, tous autant que nous sommes, avec des représentations. Hein. Alors, ces invariants concernant la différence des sexes, ça c'en est un. Mais aussi, nos représentations de ce que c'est que l'autonomie d'une femme, que ce que c'est qu'une femme, que ce que c'est que le traumatisme même. C'est-à-dire, on baigne dans un champ de représentation partagé socialement. Et je crois que c'est très souvent ces représentations-là qui nous empêchent d'être efficaces. Parce que nous les appliquons parfois un peu trop vite, hein, parce que nous sommes tous pris dedans. Hein, je parle pour moi aussi. Hein, je vois bien, je travaille avec des victimes, j'ai aussi des auteurs en psychothérapie, enfin les deux. Donc, je peux comparer. Hein. Mais voilà, nous avons à nous défaire de ce qu'on pourrait appeler des préjugés. Mais je crois que c'est plus fort que le préjugé. Parce que ce sont des représentations qui tiennent à la différence des sexes. Hein. Et que nombre de femmes qui disent, mais effectivement, bon, moi, quand il a fait ça la première fois, je trouvais que c'était normal parce que c'était mon mari, on venait de se marier. Enfin, voilà. Qui ont finalement une conception du couple qui date d'il y a 50 ans ou 60 ans, même plus. Hein. Comment dans notre actualité, dans notre vie d'hommes et de femmes, nous sommes porteurs d'autres histoires, hein, et de représentations qui n'ont pas fini de mourir, je dirais, pour laisser place à de nouvelles représentations. Donc, moi, ma question, peut-être pour... j'ai encore deux minutes. Question, c'est comment on peut arriver à changer le regard, nos propres regards. Donc, comment on peut se donner les moyens d'interroger nos regards? Alors, moi, j'ai beaucoup apprécié quand vous avez dit tout à l'heure que chez ces victimes, il fallait prendre le temps, qu'il fallait leur laisser le choix. Hein, parce que notre volonté de bien faire, c'est vrai que quand on voit quelqu'un qui arrive totalement... démoli ou brûlé au second degré, comme c'était évoqué tout à l'heure, on ne peut qu'être sollicité affectivement, émotionnellement, psychiquement. C'est un travail coûteux, hein, que vous faites. Et donc, il y a besoin de se ressourcer. Donc, quand on est aux prises avec ça, comment pouvoir se donner le temps? C'est-à-dire, comment on peut arriver à concilier dans nos prises en charge et l'urgence et le temps psychique. Et ça, je peux en vous en parler, parce que j'ai quand même quelques années d'expérience. Le temps psychique, c'est quelque chose de fou. Parce que finalement, pour le psychisme, le temps, ça n'existe pas. Mais ça n'existe pas. C'est-à-dire, socialement, oui, quand je suis consciente, bien sûr, je sais qu'il est bientôt 13 heures. Mais psychiquement... hein, entre cette première violence, cette deuxième violence qui est arrivée 3 mois ou 6 mois après, et puis ce reste traumatique que je n'ai jamais vraiment reconnu, un jour où, ma foi, mon père et ma mère, ils me sont trompés dessus à bras raccourcis, comme on dit, hein, les bras raccourcis, c'est quelle drôle d'image, etc. Voilà, le temps psychique. Et certaines femmes sont, et pas seulement du fait du trauma, de par leur histoire et leur propre fonctionnement psychique, hein, tenus de prendre beaucoup de temps pour pouvoir enfin prendre une décision par elles-mêmes. Certaines femmes n'ont vraiment jamais pris de décision par elles-mêmes avant même de connaître cet auteur, celui qu'on appelle cet auteur de la violence. Voilà. Donc ça veut dire que il faut qu'on ait des moyens supplémentaires. Hein. Il y a une pétition là, qui circule sur moyens d'urgence pour l'hôpital public, mais moyens d'urgence pour la prise en charge des violences, parce que la réponse ne peut être d'une certaine façon pour que le maillage tienne, pour que la prévention se fasse de façon bien plus large. Hein. Lydie, tout à l'heure, elle disait, mais notre petit livre, là, pourquoi est-ce qu'il n'est pas... on l'a fait pour ça, au départ. On a eu des sous pour ça. Hein. Pourquoi il n'est pas diffusé dans les lycées, dans les collèges et à l'université? D'accord. Donc, voilà. Face à ça, vous voyez, c'est vrai qu'on a des dimensions à concilier. Et donc, on a aussi complexe, c'est complexe, et des dimensions à concilier en interdisciplinaire, bien sûr, au sens large, avec le droit, avec l'histoire, la sociologie, mais en ne négligeant aucun des plans. Et je crois que souvent, quand on est dans l'urgence, on fait effectivement violence. Mais que parfois aussi, quand on est dans le temps psychique et qu'on est avec quelqu'un qui continue de se faire mal, peut-être qu'on donne trop de temps au temps. Vous voyez que c'est toujours complexe. Et que peut-être la seule manière de tenir le coup face à ça, hein, parce que c'est éprouvant, et j'en témoigne moi-même, puisque je reçois des patients qui sont pris dans ces difficultés. Et je crois que la seule solution, c'est d'avoir des espaces pour en parler. Autant des espaces de parole pour les auteurs, pour les victimes, que pour les professionnels. Et que c'est que par par la parole que nous pouvons arriver à éviter nos réactions trop vives au plan émotionnel et aussi à transformer ce que nous avons accumulé pendant la semaine, ou pendant le mois, ou pendant l'année. Et qui va faire des zones là, qui au bout un jour ou l'autre, vont nous faire un peu mal à nous aussi. Voilà. Donc je vous remercie encore une fois. Et puis je vous souhaite un bon appétit à tous.
Pour ceux qui veulent laisser les affaires, c'est possible, c'est fermé à clé pendant le temps de la pause. On se retrouve à 14h.